Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique podcast, bonne écoute et belle découverte.
Le chat de Gustav Klimt, de Bérénice Capati pour le texte et d'Octavia Monaco pour les illustrations. Les éditions Grasset Jeunesse ont fait paraître quelques titres qui proposent aux enfants une initiation à l'art par une approche originale de la vie et l'œuvre de peintres. Ces biographies simplifiées au format ludique peuvent être appréciées par un large public dès 10 ans. Si j'ai choisi de vous présenter l'album consacré à Gustav Klimt, c'est dans l'intention de rendre hommage à l'audace qu'il a fallu pour présenter dans une collection jeunesse un artiste jugé un temps sulfureux, mais qui a révolutionné la peinture de la fin du XIXe siècle. Et c'est le chat, ou plutôt l'un des chats du célèbre peintre autrichien qui prend ici la parole pour évoquer la personnalité et le travail de son maître. Tous les matins de bonne heure, Gustav s'occupe des fleurs. Personne n'est là pour lui tenir compagnie. Personne, à part moi, son chat préféré. Pour être honnête, c'est plutôt lui qui me tient compagnie. Je n'ai pas un caractère indépendant comme les autres chats. Loin de mon maître, je dépéris. Gustav ramasse les feuilles mortes, perdu dans ses rêves. On entre dans l'univers du peintre par le biais d'anecdotes qui sont autant d'informations égrenées au fil des pages et des images. Par exemple, on apprend que Klimt passait beaucoup de temps dans les musées, un petit carnet rouge en main, dans lequel il consignait des détails qu'il pourrait glisser plus tard dans ses tableaux. L'autrice nous présente un Klimt intime qui rêve, qui est aussi bon vivant, peu économe et généreux. Elle lui donne chair et âme, loin des études compassées. Peintre décorateur apprécié, il a d'abord décoré des maisons bourgeoises viennoises et participé notamment au décor de musées de la capitale qui recèlent aujourd'hui ses panneaux, tableaux, des dessins. Précurseur de l'art nouveau, il fonde avec des amis peintres, sculpteurs et architectes le groupe Sécession pour s'affranchir des conventions artistiques traditionnelles. Son chat l'atteste et nous rapporte quelques-unes de ses réflexions en réaction aux critiques qu'il reçoit. Fils d'un ciseleur de métaux précieux, Klimt avait le goût des ors qu'il parsème dans de nombreux tableaux. Ne dit-on pas que l'or est sa couleur majeure. Quand dans une église à Ravenne, il contemple pendant des heures des tesselles recouvertes d'or et de couleurs vives, son chat comprend qu'il va s'en inspirer. Mais c'est dans les paysages de son pays natal qu'il a puisé l'essentiel de son inspiration, en quête du cadrage parfait. Cet été encore, nous partons en vacances avec la famille d'Émilie. Comme tous les ans, nous nous rendons sur les bords du lac Attersee, à la montagne. C'est que mon Gustav a ses petites habitudes et c'est son endroit favori. Mais même ici, il ne peut s'empêcher de travailler. Chaque matin, il m'embarque avec ses toiles, son chevalet et ses couleurs. Et il installe son petit bateau au milieu du lac, où il étudie attentivement l'eau et ses reflets. Afin d'obtenir le meilleur angle, Gustav a toujours un petit cadre en ivoire dont il se sert pour observer le paysage avant de se mettre à l'œuvre. L'autrice n'a pas choisi d'évoquer les collines ondoyantes de la campagne autrichienne, ni l'architecture majestueuse de Vienne, ni même les figures mythologiques qui interviennent dans de nombreuses réalisations du peintre. Ses emprunts à l'art égyptien, grec et même byzantin sont volontairement passés sous silence. Bérénice Capati a voulu mettre en valeur un des sujets de prédilection de Klimt, qui est le cycle de la vie. Il ne se lasse pas de représenter le corps de la femme et n'hésite pas à érotiser ses compositions où vie et mort s'entremêlent. Bien des gens se montrent hostiles à l'art nouveau. Lorsque Gustave a peint 3 tableaux pour le grand hall de l'université de Vienne, il y a eu du grabuge. Il devait représenter la philosophie, la médecine et la jurisprudence. À la vue du travail de Gustave, les professeurs sont verts de rage. Ils s'attendaient à des images sereines et rassurantes. Et voilà que Gustave étale des sentiments. La vie, la mort, la peur, l'amour, le chagrin. Ils avaient exigé des personnages habillés et dignes. Gustave leur offre des espaces vides dans lesquels errent des corps nus. On dirait un rêve. Puisque personne, à part moi, son plus fervent admirateur, n'apprécie ses peintures, Gustave les rachète. Une fois un tableau terminé, je ne veux pas perdre mon temps à le justifier devant les gens. Ce qui compte pour moi, c'est pas tellement à combien de personnes il plaît, mais à qui il plaît, dit-il en me faisant un clin d'œil. Pourtant, en même temps, ces magnifiques portraits de commande et ces nombreuses compositions sont recherchés. Et puis le voilà, qu'il évoque le sujet de la rencontre amoureuse, et puis le chat évoque le sujet de la rencontre amoureuse, qui inspire souvent son maître. Ah, le voilà qui commence un nouveau tableau, le baiser de 2 amoureux. Il avait déjà peint une scène similaire, tu t'en souviens? Cette fois-ci, il charge sa peinture d'or et de formes géométriques. Les motifs des vêtements sont ronds pour la femme, anguleux pour l'homme. Même si leurs habits sont clairement distincts, les 2 amoureux se serrent tellement fort qu'on dirait qu'ils ne font plus qu'un. Ému, je me penche sur cette nouvelle œuvre et les heures passées à Ravenne me reviennent en mémoire. Mon incroyable Gustave a réussi à s'inspirer des innombrables tesselles dorées. L'illustratrice Octavia Monaco alterne le travail au pastel avec des collages et des aplats dorés à la manière d'eux. Elle réussit à intégrer certaines caractéristiques de l'art du peintre et suggère ces techniques plus qu'elle ne les imite. Le tout évoque bien sûr la richesse des ornementations peu conformistes du peintre. Ce duo d'artistes franco-italiennes a réussi la belle gageure de rendre l'univers de Klimt en une présentation rapide de quelques pages. Mais après tout, c'est la vision du chat, forcément sélective. À la fin de l'album se trouvent quelques reproductions des tableaux clés de Gustav Klimt. Les 2 autres titres de la collection chez Grasset sont « Van Gogh et les couleurs du vent », illustré par la même Octavia Monaco, et « Gauguin et les couleurs des tropiques », illustré par la même Octavia Monaco, sur un texte de Bérénice Capati.
L'homme qui perd le feu et le retrouve. Un roman de Dedieu aux éditions Thierry Magnier dans la collection Petite Poche. C'est un très court roman, aux phrases courtes également, mais à l'écriture dense, donc destiné plutôt à de bons lecteurs. C'est un livre violent qui nous mène dans le temps de la préhistoire. Orgue ne connaît du feu que son importance, mais ne sait pas comment le produire. Aussi, quand il se fait dépouiller de son indispensable braise, il n'a pas d'autre solution que de partir à sa recherche. Et la découverte qu'il fera changera à jamais la vie de son clan. Orgue n'aurait jamais dû s'éloigner du groupe, surtout en transportant le feu. Il aurait été négligent ou présomptueux. Maintenant, il va falloir attendre qu'à nouveau un ciel noir le recouvre, qu'un grondement se fasse entendre et que d'en haut, comme une lance, le feu s'abatte dans les broussailles. Puis, sans craindre la brûlure, s'emparer d'une branche incandescente et souffler dessus pour que le point rouge reste rouge. Org vient de gémir. Il se soulève sur les coups de coude. Il tente avec sa main de toucher sa tête pour toucher le mal. Ah oui, c'est bien là, la naissance de sa crinière. D'un bond, il se relève. Son cœur a sauté dans la tête. Il examine le sol autour de lui. Remarque les nombreuses traces de pieds. Il a compris. Le feu lui a été volé. Org pousse de petits cris comme l'oiseau blessé. Org est fort, ses muscles courent vite. Au niveau des bras et à la jointure de l'épaule, ils sont trapus, épais, saillants. C'est pour cette raison qu'il était choisi pour porter le feu. Org ne recule pas devant l'ours, même quand l'ours fait l'homme sur ses pattes de derrière. Org sait grimper aux arbres, jette la lance plus loin que les autres, court, sans boire, il ne craint personne. Il est craint de tous. Quand le ciel gronde, que les autres se terrent dans les trous, lui s'abrite juste sous une pierre. Il ne connaît pas la peur. Son groupe est là, juste derrière cette allure, on l'entend. Il reconnaît les voix. À cet instant, Org a honte. C'est la première fois qu'il rencontre son sentiment. Org tremble. Son front chauffe à tel point que bientôt des gouttes de sueur le recouvrent. Que va-t-il dire au groupe quand les membres de sa tribu vont voir ses bras ballants, ses yeux vides, sa bouche grande ouverte et le feu disparu? Il n'a plus mal à la tête, il a mal dans le ventre. Ses jambes n'arrivent pas à soutenir son corps. Alors il fuit. Il fuit à l'opposé du talus et de son groupe, loin, le plus loin possible des siens. Il va vivre à l'écart, seul, en attendant de récupérer le feu. Bien sûr, les membres de sa tribu vont le chercher. Puis, après avoir organisé une battue, crié son nom, on se fera l'idée d'avoir perdu Org, comme on a perdu Gurr, Fordi, Rikat et les autres. Certains diront qu'il a été dévoré par un fauve. On inventera un combat titanesque avec un tigre aux dents de sabre. Ces bêtes-là, c'est cruel, c'est sauvage, c'est brut. J'étais là, dira le plus vantard, et ce fut terrible. Quitter le groupe, c'est le mettre en danger. Org était le plus grand pourvoyeur de viande. Il sait organiser une traque, creuser un piège, viser avec une fronde. Lui saura vivre sans les autres, mais eux, que vont-ils devenir? Ils vont avoir faim, ils vont avoir froid. Org sait tout ça. Org le sait. Pour dormir, il se mettra parfois dos à la paroi face au danger. Un œil ne dormira pas, car sans le feu pour éloigner les bêtes, il devra être vigilant. Les loups vont sentir son odeur. Sur le flanc de la colline, une source le désaltère. Il faudra chasser, bien sûr, pour manger. Mais sans la cuisson du gibier, la digestion sera difficile. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé cru. Enfin, il traquera la moindre odeur de feu, la trace d'un foyer encore tiède ou les fumerolles d'un camp au loin. C'est son but maintenant. Ce matin-là, il est monté sur la crête de la colline, au vu de tous, bêtes et hommes. Mais il a vu une gerbe d'étincelles qui montait dans l'air. C'est là qu'il ira. Alors moi, je vous propose aussi quelques autres titres pour découvrir ou redécouvrir Thierry de Dieu. Le Yakuba, ou Kimwe qui est sa suite, Feng, l'ogre, ou l'homme qui parlait pour deux.
La plus locale des stations auboises,
Thème Radio.